Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, notre dernier rendez-vous de la semaine. Ce soir, la télé, moins on la regarde, plus on en parle. Dans la série « Les gifles qui ont marqué l'histoire », on pouvait citer de mémoire celle de Beate Klarsfeld, administrée au chancelier allemand Kurt Georg Kissinger en 1968, celle cinématographique reçue par Isabelle Adjani de la main de Lino Ventura dans le film de Claude Pinoteau, ou encore la gifle béarnaise signée François Bayrou pour corriger un jeune garçon qui tentait de lui faire les poches. Et puis il y a eu le 19 avril 2016, aux alentours de 21h. Joe Star est dans sa loge. Il attend le direct d'une émission de D8 à laquelle il participe. Un homme s'approche, suivi d'une caméra. C'est un chroniqueur de « Touche pas à mon poste », l'émission en cours, sur la même chaîne. Il veut embrasser le chanteur, lui ne veut pas, une claque part. La scène se déroule en direct. Tremblement de terre de magnitude 7 sur les réseaux sociaux. Alors, comme le rappelait le surlendemain un journaliste de Libération, ce soir-là, nous étions 65 millions de Français à ne pas regarder D8, soit 97% de la population française. Audience donc sans commune mesure avec le retentissement de ce non-événement. De tels exemples se multiplient, c'est le triomphe du buzz. Alors est-ce le signe d'un profond changement dans notre façon de consommer la télévision? C'est-à-dire qu'avec le développement des réseaux sociaux, la télé s'échappe du téléviseur et ce n'est plus le programme qui compte, mais le commentaire qui en est fait. La télé, moins on la regarde, plus on en parle, c'est notre sujet du jour. Et pour en parler, trois invités. Isabelle Véramasson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne et sociologue des médias, directrice de recherche au CNRS. Vous avez publié en 2012 aux éditions du Nouveau Monde « Histoire de la télévision française ». Et on peut vous entendre régulièrement dans l'émission de Frédéric Barrère « Le secret des sources ». C'est chaque samedi matin de 8h à 9h sur France Culture. Pour discuter avec vous, Samuel Gontier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien, Samuel Gontier?
Ça va.
Je vous demande ça parce que vous passez votre vie devant la télévision, donc voilà, je m'inquiète un petit peu.
Je fais des pauses à la radio quelquefois.
Alors, vous êtes journaliste à Télérama, enquêteur immobile, ce qui vous vaut d'écrire votre vie au poste, c'est le titre de votre chronique et d'un blog sur la télévision. Dernière chronique d'ailleurs a été consacrée à la façon dont a été proclamée la vente de sous-marins nucléaires français à l'Australie. Ma vie au poste, ce sera également le titre d'un ouvrage à paraître fin août aux éditions La Découverte, dans lequel vous ne reprenez pas in extenso vos chroniques, mais vous en faites une matière à réflexion sur ce qu'est la télévision aujourd'hui. Et puis notre quatrième invité, Virginie Spies, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes au téléphone quelque part dans les environs d'Avignon, je crois. Vous êtes sémiologue, maître de conférence à l'université d'Avignon. Télévision et Presse People, les marchands de bonheur, c'était par exemple un de vos ouvrages publié chez Debec. Et puis vous tenez un blog, Sémioblog.
Exactement.
T'es content de te voir? T'es content de me voir?
Enlève-toi tout de suite de ma tête.
T'es content de te voir? T'es content de me voir?
Oh, Joey! Bah, il est pas content de me voir, hein!
Fais-lui un petit bisou!
Mais moi? Ouais, je peux te faire un petit bisou, Joey?
Papa, bouge pas trop!
Ah, putain, il va foutre une baffe! Ah, il est pas très content de me voir, je vous l'affirme, il est pas très content de me voir! Eh, on se calme, Joey!
Ça va, mon Gilles?
J'espère que ça va bien se passer! Ça va très bien, ça va très bien!
T'as d'abord, mon Gilles! Ouais! Eh, il s'aime, Gilles! Oh là là!
Ça va! C'est pas grave, c'est pas grave!
Voilà, au cas où vous auriez raté ce moment, donc voilà, extrait de ce qui s'est passé sur D8 le 19 avril dernier aux alentours de 21h. Tiens, Samuel Gontier, est-ce que vous étiez justement devant votre télévision à ce moment-là?
Non, j'étais devant ma télévision juste un petit peu après pour regarder la nouvelle star. Et donc j'ai raté l'incident, mais j'ai bien vu qu'il y avait un problème, puisque c'était toujours « Touche pas à mon poste » qui était toujours à l'antenne alors que la nouvelle star aurait dû commencer. Le plus étonnant, le plus surprenant dans cette affaire, c'est que Cyril Hanouna a décidé de prendre l'antenne en otage, de prendre la régie en otage, ce qui est assez, je pense, enfin c'est quasiment une première dans l'histoire de la télévision, je pense.
Il a fallu combien de temps à peu près pour que vous soyez au courant de ce qui se passait? On va pas forcément commenter la gifle parce que ça n'a pas grand intérêt, hein, ça, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir la rapidité avec laquelle finalement la nouvelle s'est diffusée, a totalement enflammé les réseaux sociaux.
Oui, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé voir sur Internet, sur les réseaux sociaux, et j'ai vu effectivement immédiatement ce qui s'était passé. Enfin, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre ce qui s'était passé, parce qu'on a le fil Twitter était envahi de commentaires de supporters de Cyril Hanouna, donc c'était difficile d'avoir un point de vue un peu objectif, un peu clair sur ce qui s'était passé. Mais j'ai bien vu tout de suite qu'il y avait une affaire d'État qui s'était déroulée.
C'est un sujet qui est entré très vite dans le top mondial des sujets les plus tweetés. Donc sur Twitter, Isabelle Véramasson, c'est quand même assez vertigineux.
Oui, parce que ce qui est vertigineux, c'est qu'il s'agit véritablement d'un non-événement qui intéresse comme ça la sphère des réseaux sociaux. Et d'abord parce que, effectivement, ni Joey Starr, ni Gil Verdez, ni Hanouna ne peuvent être choqués par ce type de réaction. Je veux dire, une gifle Joey Starr, c'est pas choquant autant lorsque Beat Klarsfeld va donner une gifle à un président de la République, enfin, là, en l'occurrence, un chancelier, il y a là quelque chose de profondément symbolique, d'important, de significatif. Autant Joey Starr, qui est presque un boxeur, recevant une baffe de quelqu'un qui est un provocateur, on est dans véritablement un non-événement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à cette occasion, qu'il existe une sphère très particulière, qui est très significative de notre époque, qui suit comme une pas une secte, parce que le mot est un peu grave, mais comme un courant de gens qui suivent tout ce que dit Hanouna, ce que fait Hanouna, et qu'on est branché constamment sur les réseaux sociaux pour réagir. Parce que ce qui était frappant, c'est que ça a été très rapide. Alors qu'il n'y a pas non plus 90% de gens regardaient pas la chaîne à ce moment-là.
Virginie Spies, je voudrais revenir sur cette petite chronique qui a été publiée dans Libération quelques heures après. Donc voilà ce que disait le journaliste Jérôme Le Filiatre. D'après les chiffres de l'INSEE Médiamétrie, nous étions 65 millions de Français ne pas regarder D8 à ce moment-là, soit 97% de la population française. Est-ce que ça n'est pas, alors au-delà de ce non-événement sur lequel je ne voudrais pas non plus qu'on épilogue trop, mais est-ce que ce n'est pas le signe qu'il y a une forme aujourd'hui de déconnexion entre les téléspectateurs, qui finalement sont peut-être pas si nombreux que ça devant la télé, et les commentaires que génèrent les programmes télé?
Oui, c'est ça. Et justement, ça nous invite à repenser un peu la question de l'audience. Parce que s'il n'y a pas tant de monde que ça, en effet, devant Touche pas à mon poste à ce moment-là, le fait qu'il y ait cette histoire et un buzz fait que les gens commencent à le commenter. Et même ceux qui, comme moi ou tant d'autres, ne l'avaient pas vu, finissent par parler de Touche pas à mon poste également. Par, en effet, comme le disait Samuel Gontier, aller voir, essayer de trouver la séquence. Et donc, tous ces non-téléspectateurs sont finalement presque obligé de devenir à un moment donné des téléspectateurs et d'avoir un avis sur cette question. Donc on est un peu tous pris là dans un mouvement et ça ne se limite pas seulement justement aux téléspectateurs habituels de l'émission, et c'est ça qui s'appelle le buzz. Et en effet, la télévision là, elle sort complètement de son champ d'action habituel pour arriver partout sur le web via les réseaux sociaux.
Isabelle Vernasson,
il faut peut-être pas exagérer si on est tous obligés. Je crois qu'encore une fois, il faut raison garder et qu'on n'est pas obligé d'aller voir ce qui se passait. On peut y aller si on a
tenté,
vraiment
on a envie de savoir de quoi on parle.
On sait de quoi il parle. Et c'est vraiment une curiosité, à mon avis, assez presque étrange. Et parce que la télévision, quand même, a été émaillée. La vie de la télévision, surtout depuis qu'il existe des réseaux sociaux et qu'il existe des émissions provocatrices avec des clashs, des bâches et du trash. Voilà, on connaît ce genre de choses. Donc, je crois qu'on n'est pas obligé d'aller voir. Maintenant, on y est allé.
Virginie Spies.
Oui, simplement, en fait, on n'est pas obligé, mais en fait, il y a une forme d'injonction médiatique à savoir ce qui s'est passé au minimum. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à la fin, on en parle dans Libération, on en parle dans plein de médias, donc il y a une forme, avec Cyril Hanouna spécifiquement, qui invite, en dehors de cette gifle, en général, qui invite en fait ses téléspectateurs à aller sur Twitter, qui invente des hashtags, qui fait un happening permanent, donc il y a une forme d'injonction qui fait que si vous ouvrez vos réseaux sociaux un matin et vous n'avez pas vu ce type d'émission, ou une autre qui travaille sur cette question du buzz, vous finissez par voir voir la télévision ailleurs, au bureau, sur votre smartphone, dans le métro, etc. Alors qu'avant, c'était justement réservé au moment où on rentrait à la maison, par exemple.
Alors, il faut dire que
c'est une nouvelle façon de la voir.
Il faut dire que cet animateur a une sacrée force de frappe sur les réseaux sociaux, puisque 3,5 millions d'abonnés sur Twitter. Son émission, c'est 2 millions d'abonnés. Donc effectivement, ça lui permet aussi de faire vivre cette émission en dehors, on va dire, des canaux habituels. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour mesurer l'audience de la télévision, tient de plus en plus compte, en tout cas les chaînes tiennent de plus en plus compte de ce qui se passe sur ces réseaux sociaux. Il y a même un nouvel outil qui a été créé il y a un petit peu plus d'un an, qui s'appelle le Médiamétrie Twitter TV Ratings, qui mesure donc l'audience sociale autour d'un programme. Et on constate assez régulièrement, Samuel Gontier, que finalement, les programmes qui sont les plus commentés sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément ceux qui sont le plus regardés. Je vous donne juste une indication pour les audiences d'hier. Les programmes les plus regardés, c'était deux séries, une sur TF1, une sur M6, Falco et Scorpion. Mais sur Twitter, ce qui a été le plus commenté, c'était un match de foot sur W9, je crois, avec 1 million de spectateurs, ce qui était quand même beaucoup moins que les programmes les plus populaires, disons, hier soir.
Alors, je ne suis pas un spécialiste des audiences et des réseaux sociaux. Ma spécialité, c'est plutôt la télévision. Mais effectivement, l'audience sur les réseaux sociaux n'a souvent rien à voir avec celle des téléspectateurs devant leur télévision. Par exemple, on parle beaucoup de Touche pas à mon poste et de ces 2 millions de téléspectateurs. Mais au même moment, TF1 ou M6 ont beaucoup plus de personnes devant leurs émissions qui sont des jeux, en général, sur TF1, comme Money Drop, ou qui s'appellent les Reines du Shopping sur M6. Donc, ça fait beaucoup plus de téléspectateurs que Cyril Hanouna. Par contre, ça fait beaucoup moins de relais sur les réseaux sociaux. Et en revanche, voilà, il y a des émissions très confidentielles, mais qui sont très ciblées ados, comme les Anges, comme les Marseillais, etc., qui sont un peu de la télé-réalité, un peu de la trash télé-réalité, qui visent là spécifiquement les ados à l'heure de la sortie de l'école, en fin d'après-midi. Et là, effectivement, tous les soirs, les hashtags qui correspondent à ces émissions arrivent en tête des plus commentés sur Twitter.
En quoi c'est important, Isabelle Véramasson, pour les chaînes d'avoir une forte existence sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un argument marketing, par exemple, pour pouvoir dire aussi aux annonceurs, bah, regardez, on s'adresse à un public qui est un public jeune et donc qui peut être intéressant pour vous, annonceurs? C'est ça le principal intérêt?
Alors, donc, je sais, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je vous disais, il y a une sorte de il y a des sous-groupes qui existent comme ça, qui sont numériquement pas significatifs par rapport au grand public de la télévision. Donc, il faut bien, encore une fois, raison garder et quantité garder. En revanche, est-ce que c'est intéressant pour les chaînes d'avoir cette puissance de frappe sur les réseaux sociaux? Probablement, parce que de toute façon, il faut en être. On sait pas très bien à quoi ça sert, ni pour où on va, qui est concerné par ça, même si on sait que c'est plutôt des jeunes, plutôt urbains et plutôt le non-public de la télévision. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le grand public de la télévision qui est plutôt âgé, qui est même très âgé en moyenne. C'est vraiment... et c'est un problème pour les chaînes, puisqu'ils savent très bien que la question du renouvellement va se poser et que les jeunes se détournent de la télévision, de télévision classique, historique, comme on dit. Donc, effectivement, tout le monde, on voit bien, dans un tas de domaines, est préoccupé par le rajeunissement de l'audience, montrer qu'on est dans le coup, montrer qu'on s'adresse aux jeunes, faire venir les jeunes. Donc, il y a sans savoir très très bien les conséquences et l'intérêt d'être dans les réseaux, probablement il faut en être et marquer le coup.
Avec peut-être l'idée, Virginie Spies, d'aller recruter de futurs téléspectateurs.
Oui, c'est ça, il faut le renouvellement.
Virginie Spies.
C'est ça. Et en fait, je voudrais répondre autour de deux choses. La première, c'est la question de l'engagement. C'est-à-dire que dans le marketing, on le voit bien, si on quitte la télévision, on est sur Instagram, si les marques sont sur Instagram, etc., c'est parce que tweeter, parler, mettre une photo, parler de quelque chose, ça veut dire un petit peu s'engager sur ce produit, si on considère que c'est du marketing. Alors, si je parle de Touche pas à mon poste sur Twitter, ça veut dire que je le regarde et quelque part, ça m'engage. Alors, en termes d'audience, c'est très intéressant. Et pour les publicitaires, les annonceurs, c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'audience, elle est plus captive si j'écris en même temps que je regarde, d'une part. Et d'autre part, ça fait de nous tous des potentiels VRT, des potentiels vendeurs commerciaux quasiment, des programmes qui sont live-tweetés. Prenons la série Clem sur TF1, qui est extrêmement live-tweetée, qui a développé vraiment tous ses réseaux sociaux, aussi bien Facebook que Twitter qu'Instagram. Et bien là, vous voyez les fans pendant la diffusion de la série qui s'expriment, qui retweetent, qui parlent énormément de la série et qui en font en vérité la promotion. Ils ne font pas que de parler de la série en donnant leur avis. Ils en font la promotion auprès de leur communauté. Donc là, ce qui se joue, c'est en effet c'est vrai, une question de communauté avec des enjeux très forts en termes de public et c'est vrai aussi de rajeunissement. Ouais.
Samuel Gantier, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, du coup, étant donné cette importance comprise des réseaux sociaux, les programmes de la télévision essaient de s'adapter au format des réseaux sociaux? Pour qu'un contenu circule, il faut quand même que ce soit un contenu qui soit fort et qui soit court. Est-ce que les programmes télé témoignent de cette volonté peut-être de hachurer un petit peu justement les séquences pour qu'elles puissent se disséminer facilement?
Alors, c'est flagrant, évidemment, dans la télé-réalité, un peu dans les talk-shows, mais aussi dans la télé-réalité, où on cherche effectivement systématiquement le buzz, le clash, pour être pris sur les réseaux sociaux, donc des formats assez courts, effectivement, des choses qui se passent assez vite, qui sont assez vives, et qui peuvent être reprises sous un format court. Moi, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit, effectivement, je pense que c'est l'intérêt des réseaux sociaux et d'Internet pour pour les chaînes, c'est effectivement de promouvoir une émission, de promouvoir une marque, et ça va de pair avec la délinéarisation des consommations, c'est-à-dire que à partir du moment où on a un mur Facebook, enfin sa page Facebook ou sa tweetline qui est remplie de références à un programme, ça donne plutôt envie d'aller le voir, donc d'aller le voir en replay ou d'aller voir la séquence de Cyril Hanouna qui est sur le site de D8 avec une pub au début bien sûr, donc ça rapporte aussi de l'argent à des chaînes et cette audience en replay qu'on appelle en replay ou la télé de rattrapage est en train de prendre des proportions assez importantes puisque des programmes justement des séries à succès familial populaire de TF1 peuvent accumuler plusieurs centaines de milliers de vues ça commence à se compter en centaines de milliers les visionnages en replay sur le site de TF1 donc ça a une importance économique importante.
Bon célibataire coupé du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. Filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez.
Voilà, générique de Love Story, vous évoquez la télé-réalité, en quoi ces émissions sont particulièrement adaptées aux réseaux sociaux. Samuel Gontier, Virginie Spies, est-ce qu'on peut dire que, parce que quand on regarde finalement et le développement des réseaux sociaux et le développement de la réalité, la télé-réalité, on peut constater que c'est à peu près un développement simultané. Est-ce que, en tout cas, c'est un hasard ou bien est-ce qu'on peut dire que justement cette forme de télévision a pu exister parce que il y avait ces réseaux sociaux qui se développaient?
En fait, quand Loft est arrivé en 2001, les réseaux sociaux n'existaient pas encore, donc c'est vrai qu'il y a eu un vrai succès au départ sans ça.
Ah bah j'avais l'impression, vous voyez, que c'était plus ancien que ça, Facebook.
Non, ça n'existait absolument pas.
Non. Et il y a eu un vrai succès, mais après, bon, de toute façon, après, il y a eu un épuisement, c'est tout à fait normal, comme pour tout format qui arrive aussi vite. Mais c'est vrai que vous avez raison dans le sens où la télévision trouve avec les réseaux sociaux une forme d'expansion. C'est ce que j'appelle, moi, une télévision en expansion, puisqu'elle se trouve ailleurs. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux aident beaucoup cette forme de télé-réalité et ce qui est assez intéressant aussi à noter par rapport au replay, ce qui venait d'être dit, c'est vrai que la télévision maintenant elle est vue à d'autres moments, le replay marche très très bien, mais aussi, il y a une autre chose qu'on dit parfois un peu moins, c'est que Twitter, et donc le live tweet qui fonctionne beaucoup, qui fonctionne très bien sur la fiction, sur les jeux, sur la télé-réalité comme on l'a dit, Twitter sauve un peu le direct, parce que pour regarder et communier, entre mille guillemets hein, évidemment, hein, et communier ensemble autour d'un match de foot, parce que le sport par exemple est extrêmement commenté sur Twitter, ben, il faut le regarder en direct. Dire qu'on pleure devant Clem, ça n'a aucun intérêt si on ne pleure pas avec les autres, hein, vous voyez ? Donc ce qui est étonnant finalement aussi avec les réseaux sociaux et notamment avec Twitter, c'est que on partage les choses au moment où on est en train de les voir. Donc il y a vraiment cette question de la communauté qui est importante et qui élargit en fait le canapé. Twitter, c'est le plus grand canapé du monde.
Et qui fait que le téléspectateur devient aussi d'une certaine manière acteur et producteur de contenu, Isabelle Gramasson.
Oui, tout à fait. Ce qui est important de noter dans le Loft, ce n'est pas l'importance des réseaux sociaux, c'est d'Internet.
Bon, je me suis trompée donc oui. sur les dates.
Non, mais, mais en revanche, vous avez raison, ça permettait de mettre l'accent sur Internet. C'est-à-dire que la télé-réalité se crée avec la possibilité d'étendre, comme le dit Virginie, les programmes au-delà du petit écran, comme on dit traditionnellement, et de pouvoir revoir d'autres programmes autrement, éventuellement avec des copains et dans une autre communauté. C'est l'idée de Twitter qu'on va trouver quelques années après. Le programme classique qui est un programme que l'on peut voir à la télévision. Donc c'est vrai que la télé-réalité est née avec Internet et elle est née en combinant les effets Internet avec les effets de la télévision classique. Et Twitter et les réseaux sociaux n'ont été qu'une autre manière de continuer à communiquer, à commenter, à faire de la conversation devant un programme. Et finalement on retrouve et c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, la télévision perd son rôle de lien social qu'il avait traditionnellement, puisqu'on regardait les mêmes programmes en même moment et on formait communauté au moment où on regardait la télévision. Et là, on a retrouvé, grâce aux réseaux sociaux, l'idée du lien social, mais c'est un lien social post-moderne, post-moderne, puisqu'il concerne des petites communautés, des communautés de gens qui aiment le même programme, qui se retrouvent parce qu'ils ont le même âge, le même coin, etc. Donc c'est amusant de voir que cette fameuse fonction de lien social de la télévision a été renouvelée avec les réseaux sociaux.
Voilà, finalement, à une époque, quand moi j'étais petit, par exemple, on commentait les programmes télé de la veille dans la cour de récréation, même si on les avait pas vus d'ailleurs, hein, parce que c'était
effectivement, pareil avec
il valait mieux faire comme si on les avait vus. Aujourd'hui, voilà, c'est simplement le canal qui change. Quand on vous a appelé, Samuel Gontier, pour vous inviter et pour donc poser notamment cette question de la façon dont la télé est influencée par les réseaux sociaux, vous nous avez répondu, non, finalement, ce sont les réseaux sociaux qui se sont adaptés à la télévision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y avait pas la télé, aujourd'hui, les réseaux sociaux n'auraient pas grand-chose à se mettre sous la dent?
Ah non, c'était pas dans ce sens-là que je le disais, mais je le disais dans un sens un peu provocateur pour prendre le contre-pied de ce qui se dit habituellement. Mais je suis quand même un petit peu persuadé. Enfin, je commence à être persuadé que l'internet et les réseaux sociaux font de plus en plus de télévision en fait, avec justement le développement de ces réseaux sociaux, mais aussi de la vidéo surtout sur ces réseaux et sur internet, sur les sites, que ce soit les sites d'information, sur YouTube, etc. Tout le monde se met à faire de la télévision. Moi, j'ai un peu cette impression-là, et que du coup, il y a une interpénétration, une symbiose qui apparaît entre la télévision et les vidéos qui sont produites sur Internet, et les unes se reprenant les unes reprenant les autres, ça tourne en boucle un petit peu, la circulation circulaire de l'information que décrivait Bourdieu, qui du coup a pris une vitesse et une intensité assez folle. Donc de ce point de vue-là, j'ai l'impression que tout le monde se met à faire de la télé.
C'est d'autant plus vrai qu'il vient d'y avoir plusieurs annonces simultanées d'implication de réseaux sociaux justement dans la télévision, notamment Twitter qui va diffuser des matchs de foot américains, des matchs de la Ligue NFL, Facebook qui dévoile de nouvelles fonctionnalités sur son service de vidéo en ligne, et Amazon qui vient de lancer une émission de télévision quotidienne sur la mode. Donc on voit quand même que l'interaction Virginie-Spies, elle se fait dans les deux sens.
Ah oui, tout à fait, l'interaction se fait dans les deux sens, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, Internet bien sûr, mais les réseaux sociaux répondent à la question la plus problématique de la télévision depuis qu'elle existe, c'est l'interactivité. C'est-à-dire que dès les années 50, il y a des émissions sur la RTF où on lit le courrier des téléspectateurs en disant « on vous écoute, on fait attention à ce que vous nous dites, on lit des lettres, on leur répond ». Donc cette question de l'interactivité a toujours été le problème majeur de la télévision, et là il y a cette espèce de fantasme en fait qui serait enfin on peut entendre nos téléspectateurs et on peut enfin communiquer avec eux, ou du moins faire croire qu'on communique avec eux et qu'on peut leur répondre. Donc c'est un vœu et un désir très profond et très lointain pour la télévision.
Alors il y a la question de l'interactivité, il y a aussi ce qui ressemble peut-être à une mode, mais peut-être que là aussi vous allez nous expliquer que c'est quelque chose qui existe, qui sait depuis les origines de la télévision, c'est cette façon qu'a la télé de parler de la télévision. Alors il se trouve que c'est justement le cas à l'origine de ce qu'est cette émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. C'est une émission de commentaires, pas d'analyse, on est loin de l'analyse quand même dans cette émission, mais de commentaires sur les programmes des autres chaînes de télé. Vous qui êtes une historienne de la télévision, Isabelle Véramasson, est-ce qu'on peut là aussi dater le moment où la télé commence à s'intéresser à elle-même?
Oui, alors la télévision s'intéresse à elle-même tout de suite, ne serait-ce que parce qu'elle fait vivre le fait qu'elle existe, qu'elle est un exploit, le fait même qu'elle puisse diffuser des programmes en instantané, puisque seul le direct existe à l'époque à la télévision, et constamment célébré. Donc, à la fois célébré et déjà moqué, puisqu'il y a constamment également des pannes, puisque c'est un instrument technique extrêmement récent, et donc on commente les pannes, on rit des pannes, etc. On travaille avec ces pannes. Donc, effectivement, il y a des émissions très tôt, à la fois à l'intérieur même des émissions, on parle de la télévision, c'est-à-dire que le journaliste, on connaît l'histoire de journaliste en 5 colonnes à la une qui se présente au milieu du Congo, Roger Louis, et il est là, il dit je suis au milieu du fleuve Congo. Ce qui est extraordinaire, c'est que je suis au milieu du fleuve Congo et que vous êtes chez vous et que vous me voyez moi au milieu du fleuve Congo, et c'est tout. Donc c'est une manière, d'une certaine manière, de parler de la télévision et de son exploit technique constamment renouvelé. Et puis progressivement, il y a l'aspect pédagogique des émissions sur la télévision, comment ça marche au-delà de l'écran, derrière l'écran, comment. Donc on est constamment en train d'expliquer la technique de la télévision et son arrière-plan. Et progressivement, on va renouveler les émissions sur la télévision en s'en resservant, c'est-à-dire c'est les montages faits à partir d'extraits d'émissions, et puis les analyses d'émissions, et puis jusqu'aux émissions ressources. Même si vous savez que Média Le Mag, une excellente émission de France 5, vient d'être interrompu. Donc il y a des allées et des retours, parce que c'est souvent critiqué aussi le fait que certaines que la télévision soit tout le temps en train de réfléchir à elle-même, c'est ça énerve.
Ouais, Média Le Mag qui était voilà une émission, enfin qui est une émission mais voilà qui va s'arrêter, je crois qu'elle est pas encore tout à fait arrêtée, si. Enfin en tout cas, elle n'aura pas lieu la saison prochaine et qui est sur France 5 le dimanche en milieu de journée, qui est plutôt une bonne émission.
Oui, bah oui, auquel j'ai participé vraiment, voilà, avec plaisir.
Très intéressante.
Et c'est assez étonnant que ce genre d'émission disparaisse.
Comment est-ce les émissions de télé qui parlent de la télé, aujourd'hui Samuel Gontier en parle, est-ce qu'il y en a quand même quelques-unes encore qui vous semblent intéressantes et qui vont peut-être au-delà justement du simple commentaire? Alors on vient de parler de Média Le Mag, mais est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors, je vais revenir d'abord un tout petit peu en arrière sur l'interactivité, parce que...
Qui va vous permettre de réfléchir
ça va un petit peu ensemble, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de Love Story, on a parlé des premières émissions qui faisaient appel au public, on pourrait parler du Téléphone Sonne dans la Radio France, qui est une très vieille émission aussi.
Et le dossier de l'écran.
Oui, mais c'est Love Story, quand même la nouveauté de Love Story, ou des télé-réalités qui sont arrivées à ce moment-là, des télé-crochets comme Popstar ou le Star Academy, c'est que les téléspectateurs étaient invités à voter, c'était eux qui prenaient le pouvoir, justement. Il n'y avait pas encore Twitter, il n'y avait pas encore Facebook, mais par contre, il y avait déjà des téléphones et des SMS. Et on a commencé donc à faire appel aux téléspectateurs pour qu'ils prennent le pouvoir, enfin, en leur disant qu'on leur donnait le pouvoir, parce qu'on a vu justement que c'était pas tout à fait ce qui se passait, qu'il y avait des magouilles de la production, des choses comme ça. Mais donc, du coup, l'interactivité, on en a joué avant même que les réseaux sociaux arrivent. Et alors, du coup, on a petit à petit intégrer les SMS aux écrans, à l'intérieur des émissions, et pas seulement des émissions pour les jeunes de Cyril Hanouna, des émissions très sérieuses de politique. Et maintenant, on intègre aussi les tweets des téléspectateurs.
Donc le commentaire en direct de ce qui est en train de se passer.
Y compris sur Public Sénat, sur une soirée d'élection sénatoriale sur Public Sénat, vous avez en même temps les tweets des responsables politiques ou des citoyens qui réagissent à l'élection. Alors pour finir, pour ensuite passer à la critique de la télévision, à la télévision, moi je pense que c'est quelque chose de très très difficile, très casse-gueule, très risqué. Média Le Mag, je trouve, manquait un petit peu d'esprit critique, même si elle était intéressante, cette émission, parce que justement, elle dévoilait quand même pas mal de choses de coulisses. Mais l'aventure d'Arrêt sur image de Daniel Schneiderman, qui s'est arrêté en 2007, qui a été un peu éjecté de l'antenne en 2007, montre que c'est très difficile quand même de faire de la critique à la télévision. Et que du coup, la critique de la télévision, elle se retrouve plus maintenant, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et par exemple sur YouTube, avec des youtubeurs qui font des vidéastes, qui font vraiment de la critique de la télévision par l'image.
Il y a une autre façon, d'ailleurs, peut-être, de faire de la critique de la télévision, en la confiant donc aux téléspectateurs, mais en les voyant à l'image dans une émission de télé, programme qui a été assez fugace à la télévision française, mais assez hypnotisant, je dois dire. C'était l'adaptation d'un format anglais qui s'appelait Google Box. C'était sur M6 à l'automne 2014. Ça s'appelait Vue à la télé.
Comme chaque mois, samedi dernier sur France 2, Patrick Sébastien présentait un nouveau numéro du plus grand cabaret du monde.
Petit générique alléchant.
Quel bonheur! Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui êtes devant la télévision ce soir.
Bonjour Patrick!
Non. Je vous emmène encore une fois au pays du rêve, au pays des performances.
Je vois Trina.
Vous avez ça à l'air.
Bah.
C'est toi!
C'est beau ça alors. Ça me plaît, moi.
Moi je l'ai vu sur scène, Patrick Sébastien, il y a longtemps.
Chanté.
Quand je l'ai vu, il faisait imitateur.
Ah oui, imitateur, oui.
Et notamment, je me rappelle de l'imitation de Léo Ferré, qui était remarquable.
Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines.
Samuel Gontier, vous qui passez votre vie devant la télévision, forcément, vous êtes tombé un jour devant cette émission, même si elle n'a pas duré très longtemps. C'était quoi le principe de ce programme vu à la télé?
C'était très très étonnant parce que justement, le principe c'était de filmer des gens qui regardaient la télé, de recueillir leurs réactions comme s'ils étaient sur Twitter, mais là ils étaient dans leur salon et donc la télé, une caméra et un micro recueillaient leurs réactions. Et ce qui était absolument sidérant, c'est que contrairement à tout ce qu'on vient de dire, M6 filmait des familles entières devant dans leur canapé, devant leur petit écran. Trois générations devant le petit écran, ce qui n'arrive plus jamais dans la réalité. Et donc M6 donnait une image complètement mythique, mythifiée quasiment de ces téléspectateurs tels qu'elles les rêvent, mais tels qu'ils ne sont plus malheureusement.
Isabelle Vera-Masson.
Oui, c'est un vieux fantasme aussi, c'est que la télévision, que l'on sache les réactions des téléspectateurs. La question de l'audience est fondamentale. Donc, un des moyens de savoir, c'est l'interaction, mais c'est aussi de mesurer l'audience avec médiamétrie. Le bouton poussoir, c'est de savoir qui regarde quoi, à quel moment, la grand-mère, l'enfant, etc. Donc, elle devait appuyer pour savoir le mesurer. Et on avait pensé, effectivement, pour mesurer ce fameux public qui reste la boîte noire de la télévision, qui reste la boîte noire de tous les spectacles d'ailleurs, qu'est-ce que les gens pensent, c'était de les filmer en train de regarder la télévision et pour mesurer non seulement leur nombre, mais également la qualité de leur réaction. Et c'est évidemment un fantasme, parce que à partir du moment où vous savez que déjà qu'il y a une caméra, vous n'êtes plus tout à fait naturel. Et puis les gens, et alors ça, là aussi, les gens n'ont pas grand-chose à dire. C'est l'un des plaisirs de la télévision, c'est aussi de s'abrutir devant la télévision, de ne pas réagir. Et c'est pour ça que quand on parlait des réseaux sociaux, de Twitter, il y a là quelque chose de l'artefact. Quand je disais que c'était une communauté particulière qui se parlait à elle-même, c'était presque l'inverse de la mesure de l'audience et de la question du public. Le grand public, c'est pas Twitter. Le grand public, c'est pas Facebook. On est vraiment dans des dimensions, dans des fonctions et dans des natures, à mon avis, extrêmement différentes.
Virginie Spies.
Plein de choses à dire.
Allez-y.
Oui, je vais le faire assez rapidement quand même pour pas. La première chose, en effet, c'est que c'est difficile, très difficile, comme vous venez de le noter, hein, chacun, que pour la télévision, de parler d'elle-même. J'en ai même fait une thèse et écrit un bouquin sur cette difficulté-là d'être critiquée. L'autre chose, justement, c'est de voir qu'on n'est pas obligé, quand la télé parle d'elle-même, elle n'est pas contrainte de faire uniquement de la critique. Elle peut aussi expliquer, comme le fait, jusqu'à la fin du mois de mai, bien Média Le Mag. Expliquer, démonter pour montrer comment ça fonctionne en quelque sorte. Donc il y a plusieurs façons, il y a vraiment énormément de façons pour la télévision de parler d'elle-même. Et il y a bien une des chaînes qui a fait ça dès le départ, c'est Canal+, en fait. Enfin, à partir de 84 pour Canal+, mais surtout à partir de 86 quand ça a commencé à bien fonctionner. L'idée d'Alain de Grève, c'était vraiment de dire que tout discours pouvait être critiqué directement et contredit directement. C'est pour ça qu'ils ont créé les guignols, qu'il y avait les nuls, etc. Et finalement, les nuls, c'était une forme d'émission réflexive, dans le sens où ils faisaient un journal télévisé, mais le JTN, le JT des nuls, et du coup, ils critiquaient, en fait, en faisant une forme de parodie. Donc, il y a mille et une façons de parler de la télévision pour elle-même, et ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une forme d'extension du domaine de la réflexivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réflexivité, elle est plus seulement télévisuelle. Il n'y a plus que c'est pas seulement la télé qui parle de la télé, mais c'est en vérité les réseaux sociaux qui parlent de la télé, les pure players comme Le Plus, comme Slate, comme enfin plein de médias qui parlent de la télévision. Donc finalement, on devient quasiment tous plus ou moins des spécialistes de la télévision. Et la bonne nouvelle quand même, parce qu'il y en a une, c'est que le savoir social sur la télévision est devenu plus important et qu'aujourd'hui le grand public, justement, comme en parlait Isabelle à l'instant, le grand public tout de même est bien plus informé sur les rouages des médias.
Est-ce que vous pensez, Virginie Spies, qu'il faudrait presque prendre en compte aussi ces différents supports aujourd'hui, à la fois qui proposent de montrer de la télévision, des programmes de télévision, ou d'en parler dans la mesure d'audience, puisque je vous rappelle quand même le titre de notre émission au début, c'était de se dire la télévision, moins on la regarde, plus on en parle. Mais peut-être que c'est faux là aussi, c'est-à-dire que la télévision, on ne la regarde pas moins qu'avant, mais on la regarde différemment, Virginie Spies.
Exact, c'est ça. C'est ça, on la regarde autrement, et ça commence maintenant. On commence à mesurer justement l'audience de ce qui est regardé sur le web. Et également, pour aller un tout petit peu plus loin, par rapport à ce que vous me demandiez, il y a aussi de nouveaux pouvoirs qu'on ne maîtrise pas bien. Et par rapport à ce que disait à l'instant Isabelle sur la question du grand public qui n'est pas Twitter, qui n'est pas Facebook, c'est tout à fait vrai. Et en fait, on oublie une autre donnée par rapport à cela. C'est que finalement, que font les médias du web pour parler de la télévision tous les matins pendant qu'on arrive au bureau ou quand on check un peu notre smartphone avant de partir? Eh bien, ils reprennent ce qui s'est passé à la télévision la veille. Ça, c'est pas nouveau. Mais ce qu'ils reprennent surtout, c'est l'humeur de Twitter. Donc finalement, c'est pas tant Twitter qui a un pouvoir, c'est pas tant Facebook. C'est l'effet de reprise, en fait, vous voyez, et qui fait que le buzz. Et en effet, pour retour à la gifle de départ, l'événement, c'est pas tant la gifle que l'énorme buzz qui est fait autour, d'abord sur Twitter, mais surtout le lendemain sur les pure players dans tous les médias, pour finalement arriver à un effet réel. Cet effet réel, c'est que le soir même, Cyril Hanouna fait quand même son émission, il rassemble 2 millions de téléspectateurs pour une émission qu'il a entièrement consacrée à quoi ? À son émission. Alors là, on a fait le tour de la question, hein. C'est la circularité ultra-circulaire de, des médias. C'est complètement fou, c'est une réflexivité abyssale.
Et les 18h54, c'est l'heure comme chaque vendredi de retrouver les pages débat de l'Obs avec vous, François Armanet. Bonsoir François.
Bonsoir.
Ah, je suis assez étonné parce que dans les pages débat, vous ne parlez pas de Cyril Hanouna ni de Joe Starr, mais vous avez choisi plutôt de vous entretenir avec l'historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco.
Oui, oui, certains regardent la télévision, d'autres préfèrent vivre. Comme certains me disent régulièrement.
Ou lire des livres, par exemple.
Ou vivre devant la télévision.
Vivre en lisant, oui. Vivre dans la télévision, ça me semble beaucoup plus difficile. Pardonnez-moi.
Bon, alors, Elisabeth Roudinesco,
Elisabeth Roudinesco, c'est un grand entretien où elle parle effectivement du temps présent. Ce qu'elle dit aujourd'hui, enfin, en tout cas, je vais largement, évidemment, la citer, c'est que dans les périodes comme celle-là, on doit dire, nous devons dire, c'est ce qu'elle dit, quel est l'ennemi principal, à savoir l'islamisme radical qui est contraire à nos valeurs. Oui, nous sommes en guerre, d'autant que cet islamisme nourrit les thèses détestables du Front National. Donc, en tout cas, du côté de Roudinesco, c'est très nickel. Et quand elle sent, en France, un désir de fascisme, elle l'explique comme une psychanalyste et comme une historienne, en pensant que c'est un espèce d'inconscient français surgi de Vichy, c'est-à-dire on a collaboré pour ne pas avoir la guerre, résultat on a eu le déshonneur et la guerre comme on connaît la formule, et en tout cas c'est assez étonnant de la part d'Elisabeth Roudinesco d'être aussi crue sur cette analyse. Alors bien évidemment elle propose de se mobiliser contre cette forme d'atteinte à nos idéaux, et là on en revient à une défense en tout cas du modèle laïque. Et pour elle, ce qui s'imposerait aujourd'hui, c'est un discours churchillien, pas les anxiolytiques, pas les cellules psychologiques.
Pas la télévision non plus, donc.
Pas la vision, sortez, prenez des risques, nous sommes en guerre et on va se mobiliser, en tout cas autour de nos valeurs.
Voilà, c'est donc un entretien avec Elisabeth Roudinesco et c'est à lire...
Percutant et dynamique.
Voilà, comme chaque fois, à lire dans les pages.
Merci.
Débat de l'Obs, merci beaucoup François Armanet. On peut lire l'Obs, on peut lire Télérama, puis s'il nous reste un petit peu de temps, s'il ne fait pas trop beau par exemple ce week-end, on peut également regarder la télévision, c'est ce que vous allez faire, ça ne s'arrête jamais pour vous Samuel Gontier. J'imagine.
Non, ça s'arrête si pendant mes vacances quand même, j'arrête.
Pour le week-end, par exemple, vous vous établissez un programme en disant...
Voilà, désintoxication quand même, de temps en temps.
Il faudra peut-être passer par la désintoxication, mais avant ça, pour le week-end, par exemple, vous savez déjà ce que vous allez regarder?
Non, je mêle mes intentions et puis le cours du zapping, voilà. Je me laisse un petit peu aller aussi.
Quand on est historienne de la télévision, Isabelle Vera-Masson, est-ce qu'on s'oblige justement à se tenir au courant de toutes les émissions qui passent à la télé avec la multiplication des chaînes? J'imagine que c'est aussi un travail compliqué.
Alors moi, je ne comprends pas du tout le discours anti-télévision. Je suis toujours étonnée d'entendre ça. Je trouve qu'il y a des choses absolument passionnantes à la télévision. Des documentaires, des fictions, magnifiques. Je trouve qu'on vit. Là, moi, je pleure devant la télévision. J'apprends des choses sur l'islamisme, sur ce qui se passe. Donc, je ne comprends pas. Donc, je le regarde pour des raisons professionnelles, pour apprendre, pour me distraire, pour m'informer, comme dans le bon vieux temps. Et parfois, c'est vrai, je regarde des trucs qui ne m'intéressent pas vraiment parce qu'on en parle et que je risque d'être interrogée sur ce genre de questions. Mais je crois qu'on peut faire un usage très intelligent, très actif et très intéressant de la télévision.
Et vous, pour conclure, Virginie Sciez, quelle téléspectatrice êtes-vous?
Certainement comme Isabelle, c'est-à-dire qu'avec vraiment beaucoup de programmes pour le plaisir, souvent en replay au moment où j'ai un peu de temps pour moi.
Ça, c'est chronophage comme réflexion, pardonnez-moi.
Oui, c'est chronophage, la télévision, c'est vrai.
Oui, c'est vrai que c'est ça prend quand même beaucoup de temps et puis après, on ne peut pas tout voir, mais il est vrai que quand il y a des nouveaux formats ou des choses importantes, ma foi, c'est pour le travail, avec une famille et des enfants compréhensifs. Voilà, maman part dans le bureau, elle va travailler et avec la télé, c'est bizarre, mais c'est comme ça.
On aura bien compris. j'apprends en tout cas que François Armanet n'est pas prêt de travailler pour le supplément télé de l'Obs et qu'il reste au poche débat. Merci en tout cas.
Merci.
À tous. Samuel Gontier.
Donc, il en fallait un quand même.
Voilà, bah, voilà, vous êtes arrivés.
Oui.
Ma vie au poste, c'est à lire dans Télérama et sur votre blog. Merci Isabelle Véramasson et Virginie Spies. Je renvoie également à Semi au blog. Et puis vous, Isabelle Véramasson, votre prochaine venue dans Le Secret des Sources sur France Culture. Vous pouvez poursuivre cette émission. Nous aussi, nous pratiquons un peu à notre dimension les réseaux sociaux. C'est sur Twitter, c'est sur le site internet de France Culture, à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe de l'émission. Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richet, Cyril Baer, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Pierre Faucillon. La semaine prochaine, c'est Mélanie Chalandon qui présentera l'émission. Lundi, le thème sera le suivant. Les cadres sont-ils des prolétaires comme les autres ?